Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Né en 1768 et mort en 1848, François-René de Chateaubriand est un monument littéraire. Lui qui reste et restera toujours comme l'auteur, avant tout, des Mémoires de l'Outre-Tombe publiées après sa mort. Il y relate sa vie, son époque, ses amours, sa carrière politique, ses voyages et ses positions politiques. Cette autobiographie sublime et sublimée, monument de, je cite, « de vanité et de jalousie impuissante » dit d'elle Marc Fumaroli, nous autorise à scruter donc la vie réelle de Chateaubriand. Était-il le roi des égotistes, selon ce qu'en disait Stendhal? Fut-il un visionnaire, l'égal de Tocqueville, son cousin? Quant à la montée de l'égalité en démocratie, il avait prévu l'avenir, disait de lui le général de Gaulle. Et dit de lui la duchesse de Breuil, il veut toujours qu'on le plaigne des malheurs qu'il s'impose. Et Talleyrand d'ajouter, il croit qu'il devient sourd quand il n'entend plus parler de lui. Alors, donc, abordons ce monument qu'est Chateaubriand et nous recevons donc son dernier biographe, Jean-Claude Bercher, bonjour.
Bonjour.
Vous venez donc de faire paraître une biographie, peut-être la biographie sur Chateaubriand, celle qui est saluée magistralement par beaucoup de critiques. Quant à son étendue, elle fait plus de 1000 pages, quant à sa maîtrise du sujet et, je dois le dire, aussi quant à la qualité de l'écriture. Vous êtes vous-même donc universitaire, vous avez consacré 40 ans de votre vie à Chateaubriand, vous avez édité donc les Mémoires d'Outre-Tombe en premier lieu chez Classique Garnier et deuxièmement, surtout, dans la Pochothèque. Vous êtes vice-président de la société Chateaubriand et vous avez écrit un certain nombre de livres sur les voyages en Orient. Et de toute évidence, cette biographie viendra prendre place dans deux autres livres qui, modestement pour moi, font autorité sur Chateaubriand. D'une part, donc, le livre de Jean d'Ormesson, donc « Mon dernier rêve sera pour vous », qui est une biographie sentimentale, et le livre de Marc Fumaroli, Chateaubriand, poésie et terreur, où il met en parallèle Chateaubriand avec les contemporains capitaux de son époque. Alors, nous voudrions avec vous, aujourd'hui, non pas tout examiner, c'est impossible, non pas tout regarder, non pas tout survoler, mais examiner de façon un peu plus précise, si vous le voulez bien, le Chateaubriand politique. Mais première question, plus personnelle, pourquoi avez-vous consacré tant d'années à Chateaubriand? Quelle est chez vous la part d'érudition universitaire et la part de passion personnelle? Et qu'est-ce que vous admirez de plus chez cet homme auquel vous avez consacré des milliers de pages et des dizaines de milliers d'heures et de jours pour scruter à la fois ce qu'il dit et à la fois ce qu'il était?
Eh bien, je ne vous surprendrai pas en vous disant que j'admire surtout une œuvre. Pour moi, Chateaubriand est un écrivain. Est un écrivain qui est engagé dans la politique, ce qui est quelque chose de particulier. Je pense à Stendhal, pour qui la politique est incompatible avec la littérature, le coup de pistolet dans le concert. Chateaubriand, lui, a mené de front une carrière politique, une carrière littéraire, et je crois qu'on peut parler de carrière aussi, et une vie amoureuse, une vie personnelle. Dans les trois cas, ce sont des existences parallèles qui se croisent, qui sont très riches, en événements très riches en poésie. À propos de son œuvre, je voudrais aussi vous dire que je ne suis pas de ceux qui considèrent que tout ce que Chateaubriand a écrit avant les mémoires est négligeable. J'ai une grande admiration pour Atala, une grande admiration pour René, pour les Natchez, pour les martyrs. C'est autre chose et c'est un élément de richesse supplémentaire à mon avis.
Alors, qu'est-ce que vous admirez le plus chez lui? Enfin, quel est son coup de génie particulier qui fait que vous avez, comme ça, consacré, que vous consacrez des heures
Vous savez,
des heures
et des
années.
Très difficile de se psychanalyser soi-même. Mais disons qu'encore une fois, c'est la variété et la qualité de son écriture. J'ai été tardivement intéressé par le côté biographique, si j'ose dire. Au début, j'étais un lecteur de Chateaubriand et non pas un investigateur plus ou moins soupçonneux, comme il en existe. Donc, ma biographie je le dis au début, dans un avant-propos, elle est fondée sur une empathie critique. Ça signifie à la fois une sympathie et un refus du persiflage qui existe souvent à propos de Chateaubriand. Vous avez cité Talleyrand, vous avez cité la Duchesse de Broglie, c'est ce que j'appelle le persiflage mondain. Tandis que, quand on regarde de près, j'ai surtout utilisé une très riche correspondance, en partie publiée, en partie inédite. Eh bien, on a quelqu'un de vivant, on a quelqu'un qui est rempli de la plus attachante humanité, et non pas une statue, un personnage, un guignol. Parce que on est allé jusque-là, hein, en disant qu'il joue un rôle, il joue des rôles. C'est quelqu'un qui est réductible à ses rôles. Eh bien, je ne le pense pas du tout. Sinon, je ne me serais pas attaché à écrire ce livre.
C'est-à-dire que vous ne pensez pas, c'est un peu l'idée, effectivement, et je me permets de me faire l'avocat du diable, que, effectivement, sa part de romanesque a été tellement forte qu'elle a, d'une certaine façon, phagocyté sa vie propre pour tout mettre dans son œuvre littéraire, et en particulier dans Les Mémoires d'Outre-Tombe, qui, effectivement, n'est pas sa seule œuvre, mais, effectivement, son œuvre majeure.
Les Mémoires sont la somme, et c'est pas un hasard s'il les a rédigées lorsqu'il avait perdu le reste. Alors, vous parliez de politique, c'est une situation complexe.
Juste avant la partie politique qu'on va aborder, hein, je voudrais juste terminer sur la partie biographe. Donc vous avez commencé, vous, en lisant Les Mémoires d'Outre-Tombe. Donc Les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est une autofiction, enfin une forme de récit de lui-même. Bon, et après, vous êtes intéressé, effectivement, à la vraie, entre guillemets, biographie. Donc comment les choses se sont faites. Donc,
il y a un paradoxe, évidemment, pour un biographe de raconter la vie de quelqu'un qui a écrit son autobiographie.
Voilà, alors donc ça, ma question, c'est est-ce que vous avez, vous, réduit la part de romanesque qu'il a lui-même instauré dans Les Mémoires d'Outre-Tombe en recollant ça sur la réalité des faits, ou au contraire, est-ce que vous considérez qu'il faut mesurer ce que vous avez fait, la part de décalage qu'il a lui-même instauré entre sa vie réelle et sa vie romancée ?
Je dirais que j'ai ajouté du romanesque, puisque ce livre est le roman d'une vie. C'est ainsi que j'ai envisagé cette autobiographie. Chateaubriand mémorialiste est un homme très discret. Il est loin de révéler tous ses secrets, mais il est même loin de révéler tout ce que tout le monde savait. C'est une autobiographie stylisée qui a une perspective qu'il a définie lui-même après 1830, mais il y a des tas de choses dont il ne parle pas. Madame de Castellane, qui a été le plus grand amour de sa vie, son nom ne figure pas dans les mémoires. Et on pourrait citer bien des cas de ce genre.
Donc Cordelia de Castellane, qui était beaucoup plus jeune que lui, et qui a été pendant 9 mois, si je ne m'abuse.
Sa maîtresse. Je parlais de Madame de Castellane, mais il y a eu surtout Madame de Noailles. Oui. Il y a eu Madame de Noailles. Le nom de Madame de Noailles ne figure pas non plus. Or, ça a été sa plus grande passion. Madame de Castellane, c'est ce que j'appelle le démon de midi, parce que c'est le dernier espoir et surtout le dernier désir frénétique. Les lettres, la correspondance amoureuse Chateaubriand de Madame de Castellane, elle est la seule qu'il tutoie, c'est brûlant.
Alors venons-en, si vous le voulez, effectivement, à la partie politique, donc sur laquelle vous insistez beaucoup, vous reprenez ce que des gens comme moi, qui ne connaissent pas forcément très bien Chateaubriand, donc les pamphlets, les brochures, ce qu'il a progressivement publié sur les différents épisodes de sa vie politique. Donc, première question, est-ce qu'on a du mal à voir l'unité, la ligne directrice politique de Chateaubriand. Est-ce qu'on peut dire qu'il est, et vous me direz si c'est cela, qu'il est, disons, un enfant de Mirabeau, c'est-à-dire qu'il cherche à royaliser la nation et à nationaliser le royalisme? Est-ce qu'il est quelqu'un qui a comme idée une forme de monarchie anglaise, donc le pouvoir plutôt des assemblées que du roi? Voilà. Qu'est-ce qui fait, selon vous, pour autant qu'il y en ait une, l'unité politique, avant que de rentrer, ce qu'on fera juste après, si vous le voulez bien,
Détails. Je vais reprendre votre formule, elle est excellente, c'est un enfant de Mirabeau. Et il faut remonter un peu en arrière, évidemment, et ne pas commencer à examiner la carrière politique de Chateaubriand avec la Restauration. Chateaubriand est un homme qui a revendiqué toute sa vie le droit d'être un écrivain et un homme politique. Il n'a pas voulu céder une partie de ce dualisme, de cette dualité. Et dans ce qui concerne la politique, il y a deux choses à envisager. Il y a sa pensée politique et puis sa carrière politique. C'est pas la même chose. Souvent, on les mélange de manière inopportune. Alors, enfant de Mirabeau, pour bien des raisons, parce que Chateaubriand commence par être un obliot breton qui est passionné par les premières journées de la Révolution en Bretagne, où il a une position très ordinaire, mais qui très vite, qui est les privilèges de la noblesse, enfin ce qu'ils appellent les libertés de la Bretagne. Enfin, Donc c'est les corps intermédiaires, c'est une position... Bon. Ensuite, il traverse la Révolution, enfin, il ne la traverse pas toute. Il arrive à Paris la veille du 14 juillet, et il y a cette scène des têtes poudrées, traversées par des pics, qu'une population hurlante brandit sous sa fenêtre. Et à ce moment-là, il y a un refus de la violence, un refus de la violence populaire en particulier. Donc, Chateaubriand, là, se détourne de la politique. Il dit, la politique, si c'est ça, je vais, moi, faire de la littérature. Et ça dure assez longtemps. C'est le voyage en Amérique. Ensuite, son exil en Angleterre. Son exil en Angleterre le met en contact, surtout vers la fin, quand il est un peu moins pauvre, un peu moins malheureux, le met en contact avec des monarchistes, mais des monarchistes libéraux, qui se séparent donc du reste des immigrés qui sont autour du comte d'Artois, des monarchistes libéraux qui étaient partisans et qui ont en particulier élaboré en 1791 la constitution 1791, c'est-à-dire une monarchie constitutionnelle. C'est ce qu'on appelait les monarchiens. Donc. Et Chateaubriand, donc, quand il arrive à 30 ans, 1798, c'est un monarchiste libéral. Il a publié sa première œuvre, un essai sur les révolutions antiques et modernes, qui est traversé de pulsions anarchistes, de rejet de tout. Mais quand il se reprend, et dans ce livre il se reprend, il fait la part de la réalité, il dit il vaut mieux un roi qu'un tyran, et surtout qu'une démocratie, qu'un pouvoir populaire qui est la pire de la violence. Et alors quand il rentre en France, c'est une attitude évidemment politique. Quel est le sens de ce retour et quel est le sens de ce ralliement à Napoléon, au premier consul? Il est rentré 5 mois après le 18 Brumaire. Donc c'était un geste politique. Eh bien, parce que, avec des amis comme Fontane.
Son grand ami.
Son grand ami, avec qui il a médité et rédigé le génie du christianisme, il pense que le premier consul, je rappelle que le consulat, c'est la République, hein, c'est pas la monarchie. Donc, ça veut dire que, à ce moment-là, Chateaubriand se fiche éperdument de la dynastie qui remplacera Louis XVI. Les Bourbons, c'est quelque chose de fini pour lui. Ou de très loin. Louis XVIII, à ce moment-là, il est en Courlande, à Mitau, bon. Donc, il pense que Napoléon est un pouvoir fort, un pouvoir de conciliation qui va réconcilier les deux Frances, la France jacobine et la France royaliste, enfin pour aller vite, et que cette union va se faire bénir par la religion catholique, c'est-à-dire que... Et on a là, disons, en dehors de toute question de personne, les piliers de sa pensée politique, c'est-à-dire un pouvoir exécutif fort, et centralisé, des libertés, des assemblées, une presse, enfin une constitution si vous voulez, et en même temps un aspect de morale religieuse qui est pour lui la seule garantie profonde de la liberté. Si vous voulez, à la liberté révolutionnaire, il oppose la liberté de l'évangile, pour faire vite là aussi. Et puis il s'aperçoit que Bonaparte, c'est pas un monarque constitutionnel. C'est un homme de pouvoir qui va devenir un despote. Et qui va établir un régime autoritaire, un régime policier et un régime sanglant. Et c'est la fameuse affaire du duc d'Enghien qui se double quelques années plus tard de l'affaire de son cousin. C'est un agent secret du gouvernement britannique qui se fait prendre sur les côtes du Cotentin et qui est fusillé à Paris.
Donc vous voulez dire qu'il est pour Bonaparte et contre Napoléon?
Si vous voulez.
Voilà.
Oui, c'est ça. Il a donc collaboré pendant la durée du consulat, et c'est à partir de 1804 qu'il a pris ses distances. Alors on pourrait détailler, mais peu importe. Oui. C'est-à-dire ces distances ont des raisons psychologiques, ce sont des liaisons avec des femmes de la haute aristocratie, c'est son voyage en Orient qu'il a conçu comme une espèce de croisade, et ce pèlerinage au Saint-Sépulcre lui a permis évidemment de réfléchir sur ce que c'était que la liberté chrétienne face à un despotisme qui est aussi condamnable, c'est le despotisme ottoman, le despotisme musulman, islamique, si vous voulez.
Donc vous voulez dire que ces trois piliers d'origine, c'est-à-dire à la fois un pouvoir fort, à la fois une liberté de la société civile, et en particulier liberté de la presse, et puis cette morale religieuse, la liberté de l'évangile, ces trois éléments-là sont l'unité de ces positions.
Avec évidemment des aspects qui ont été plus ou moins marqués selon les époques. Nous avons commencé par parler de Mirabeau. Il est certain que chez Mirabeau, la dimension religieuse est absente. Mais Mirabeau, c'est celui, vous le citiez, qui a voulu royaliser la nation et nationaliser le roi, la monarchie. Et Chateaubriand adhère complètement à cette idée, toute sa carrière le prouve. Donc arrive la Restauration. Arrive la Restauration et que Chateaubriand considère comme une chance. C'est un monarque, c'est une constitution et c'est le rétablissement et la manifestation officielle de la religion catholique. Et à partir de là, les choses vont se compliquer. C'est à partir du moment où il est devenu royaliste qu'il a commencé à avoir des problèmes, paradoxalement.
C'est au moment où il est devenu royaliste ou c'est au moment où la royauté est revenue au pouvoir ?
Vous avez raison. Il a commencé par devenir royaliste et quand la royauté est arrivée, voilà. Il a pris le train en marche. On peut dire les choses vulgairement comme ça. Hein ? Et alors là, il y a des étapes. Vous avez cité de Bonaparte et des Bourbons, qui est un pamphlet très violent, mais dont il faut rappeler toujours qu'il est absolument dans le ton de tous les pamphlets de cette époque. Chateaubriand ne se singularise pas dans ce texte. On a toujours des parallèles anachroniques. Mais enfin, la France de 1814, c'est la République fédérale après 1945. Il y a des alliés, il y a une occupation militaire, il y a la dénonciation du despotisme, etc. Vous voyez, bon. En plus, pour des gens comme Chateaubriand, la révolution, cette fois avant le consulat, a été, dans une certaine mesure, un holocauste. Il a perdu son frère, qui a été décapité, etc.
Sa mère est morte.
Sa mère est morte.
De maladie.
Ses sœurs ont été emprisonnées. Les cendres de son père ont été exhumées et jetées à la voirie. Enfin, bon. Et il y avait tout le reste de la famille. Donc, Chateaubriand pense que Louis XVIII peut instaurer un régime viable. Et au début, il est pour cette monarchie constitutionnelle qui, c'était la formule de Louis XVIII, union et oubli, c'est-à-dire on va réunir les deux Frances, celle des impérialistes, comme on disait alors, qui avaient servi Napoléon, et les fidèles de la dynastie des Bourbons.
Donc ça, c'est la charte de 1814.
C'est la monarchie selon la charte.
Voilà.
La charte de 1814.
Qu'il soutient et qu'il va constamment rappeler.
Mais alors, Chateaubriand adhère à ce moment-là.
À celle même qu'il l'aurait trahi.
À la politique de Louis XVIII, si vous voulez. Et puis, il y a les 100 jours, et il se rend compte que tous les gens à qui on a fait confiance, dont on a accepté le ralliement, ont de nouveau trahi pour rejoindre Napoléon. Et ça a été un très grand traumatisme dans sa carrière politique. À ce moment-là, il a dû se dire, eh ben, c'est pas la peine de vouloir oublier et réunir. On va être royaliste à fond.
Ah oui, d'accord. Par trahison.
Par trahison.
Par le sentiment de trahison des autres.
C'était plus qu'un sentiment, c'est une réalité. Alors, on rencontre là aussi des problèmes que le XXe siècle a retrouvés au moment de la perestroïka, au moment comment passer de la tyrannie autoritaire à un régime plus libéral. Est-ce qu'il faut prendre les mêmes pour faire autre chose? Les mêmes parce qu'ils sont au courant, ils sont efficaces, ils ont administré. Tandis que ceux qui sont purs de toute tâche, ils savaient rien, ils n'étaient pas aux affaires, etc., etc. Vous voyez, la politique de la Restauration pose ce genre de problème qu'on a trouvé dans bien des cas par la suite.
Et là, il faut dire qu'il devient, donc, après les 100 jours, donc il devient ministre d'État, c'est-à-dire une responsabilité honorifique.
Oui, c'est plutôt une pension.
Voilà, qui est plutôt une pension. Il devient pair de France.
Pair de France, et
18 août 1815.
Il sera très attaché à cette qualité.
Voilà, et donc apparemment, il est plutôt en odeur de sainteté.
Oui, il est plutôt centriste à ce moment-là. Et c'est après les 100 jours qu'il deviendra plus à droite. Et à ce moment-là, il va rejoindre pendant de nombreuses années les ultra-royalistes, qui sont opposés à la politique justement centriste que Louis XVIII mène avec Decazes. Et il crée en particulier cette revue Le Conservateur qui exprime les positions les plus droitières du parti royaliste.
Mais alors, c'est là on a du mal à comprendre. Il veut à la fois faire cette fusion effectivement dans la lignée de Mirabeau entre la nation et la royauté d'une part. Il veut réconcilier les deux France. Il veut effectivement un pouvoir fort, etc. Bon. Et à ce moment-là, il passe du côté des ultras au moment même où effectivement, semble-t-il, la politique est plus libéral. Est-ce que c'est un effet de tempérament?
Non.
Ou est-ce qu'il y a une logique politique à ce changement?
C'est là que la chronologie est importante. Chateaubriand commence par être libéral. Et ses premiers écrits, les réflexions politiques et certains autres, sont agréés par Louis XVIII qui lui dit « c'est très bien, continuez ». Et puis, il publie, en 1816, ce traité de monarchie inconstitutionnelle qu'est la monarchie selon la charte. Et c'est à ce moment-là que Louis XVIII dissout la chambre élue en 1815, qu'on a appelée la chambre introuvable, qui était la chambre la plus à droite qu'on pouvait concevoir, Et alors, Chateaubriand, il y a un renversement, si vous voulez.
Donc, chronologie, c'est le 7 septembre 1816,
oui.
Voilà, où il dissout. Et effectivement, à ce moment-là, Chateaubriand rajoute un
parce petit codicille. Parce que Chateaubriand considère que la dissolution de la Chambre introuvable, voilà, c'est un acte de despotisme. Et il défend les ultras en disant « Nous sommes victimes du despotisme qui ne fait que reprendre celui de Napoléon ». Donc, vous voyez, il y a cette idée que c'est la droite qui va défendre la liberté, qui est parfaitement fausse, c'est pas la question, mais c'est son idée. Et c'est ce qui va commander son action.
Et donc, conséquence, donc il rajoute, parce que vous décrivez bien, et c'est passionnant de ce point de vue-là, parce qu'on suit ça dans le détail, donc il rajoute un post-scriptum à cette monarchie selon la charte, et dans lequel, effectivement, il dénonce cette dissolution pour abus de pouvoir.
Oui, voilà. C'est ça, exactement.
Voilà. Et donc, le 20 septembre 1816, il est renvoyé. Il n'est plus ministre, donc ce qui n'a pas de grandes conséquences politiques, mais une conséquence surtout sur ses finances.
Ça a des conséquences sur lui, sur ses finances. Voilà. Et puis, c'est ça qui va le ramener à la politique, mais comme opposant et comme journaliste.
Voilà, donc vous voulez dire qu'effectivement, là, on est toujours dans cette position ultra,
oui,
de Chateaubriand, qui, donc ultra, ça veut dire qui est plutôt du côté de ceux qui militent pour le pouvoir du roi.
Oui.
Et il dénonce...
Mais pas seulement pour le pouvoir.
Voilà.
Pour la religion, pour un ensemble de choses. Chateaubriand est obsédé par cette idée que Louis XVIII, après une période acceptable, a voulu rétablir une espèce de despotisme impérial. Finalement, Louis XVIII se serait rendu compte que les institutions napoléoniennes, elles étaient très pratiques et lui donnaient le même pouvoir que son aïeul Louis XIV.
Donc dérive, donc dérive, il constate une dérive
alliance de Louis XVIII avec une bourgeoisie qui avait un passé impérialiste. Et justement, c'est ce problème de la bourgeoisie et de la noblesse qui va jouer, là. Parce qu'à partir de là, enfin, je ne voudrais pas, c'est un peu compliqué.
Non, mais au contraire, allez-y.
Disons, terminons le parcours de la Restauration. Le conservateur finit par obtenir la chute de Decazes, le meurtre du duc de Berry, etc. Chateaubriand se rapproche de Louis XVIII. Enfin, il entre dans le jeu. Il devient ambassadeur à Berlin, à Rome, à Londres. Ensuite, ministre des Affaires étrangères pendant un an et demi quand même.
1er janvier 1823,
voilà, oui.
Il devient ministre des Affaires étrangères.
Jusqu'au 6 juin 1824.
Voilà.
Et puis, à ce moment-là, apparaissent des dissensions entre celui qui avait été son ami et son complice, le comte de Villèle. Parce que Chateaubriand...
Là aussi, trahison.
Chateaubriand occupait à la Chambre des Pairs et défendait les mêmes idéaux et la même politique que Villèle à la Chambre des députés. Villèle était député. Donc ils ont fait alliance, et la carrière politique, là, il y a bien une carrière, ambassade, ministère, était fondée là-dessus, sur cette alliance. Et puis les choses se sont dérangées, et en juin 1824, Louis XVIII renvoie Chateaubriand. Et cette fois, Chateaubriand considère que Louis XVIII et son ministre Villèle reviennent aux anciens errements du temps de Decazes, et entre dans une opposition de type royaliste et de type de droite.
Parce que là aussi, dans votre biographie, les choses sont bien détaillées. Là aussi, on a le sentiment qu'il y a un effet d'orgueil. C'est-à-dire qu'il a le sentiment, le 6 juin 1824, donc, d'avoir été renvoyé. Mais oui, renvoyé, oui, comme est renvoyé un valet.
Oui, oui.
Il dit « J'ai été mis à la porte comme si j'avais volé la montre du roi ».
Oui, oui, c'est ça.
Voilà. Là, il a un sentiment d'orgueil blessé. Est-ce que cet orgueil blessé ne va pas...
Ne va pas jouer, si, voilà, entendu. Voilà.
Dans,
bien entendu.
Dans ses positions politiques, oui, oui. Et donc considérer que là, entendu, effectivement, il y a aussi...
Et alors c'est là qu'évidemment on se pose la question, est-ce qu'il est responsable de la chute des Bourbons en 1830? Mais avant 1830, il est revenu en grâce, puisqu'il a obtenu la chute de Villèle, son orgueil était satisfait, il a accepté...
Pour autant qu'il le soit jamais.
Et il a accepté une ambassade à Rome, et il aurait voulu que ça dure.
Donc... Ambassade à Rome, enfin, je me permets de rajouter juste des chronologies, puisque je l'ai noté dans votre livre, donc de septembre 1828 à août 1929.
C'est ça.
Et là, c'est lui qui démissionne.
Voilà.
Alors pourquoi démissionne-t-il?
Il démissionne parce qu'il considère donc, le ministère sommes... Polignac
donc, là, nous
en 1829.
Voilà, nous sommes depuis 1824 sous Charles X.
Sous Charles X, voilà. C'est ça.
Alors pourquoi démissionne-t-il?
Alors, il démissionne parce qu'il considère que le nouveau ministère formé par Charles X en août 1829 est un ministère de provocation qui est une menace pour les libertés. Polignac, c'est le fils de la favorite de Marie-Antoinette, qui apparaît justement dans ce film Les Adieux à la Reine, qui vient de sortir. Labourdonnais, c'est celui qui demandait des supplices en 1814. Et Bourmont, c'est un général qui a trahi sur le champ de bataille de Waterloo la cause de Napoléon. Alors, Koblenz, 1815, Waterloo, ça faisait beaucoup. Et Chateaubriand a démissionné à contre-cœur, parce qu'il aurait tellement voulu retourner à Rome, il aurait... Et en démissionnant, il se privait, non seulement c'était une catastrophe financière, non seulement... Alors, vous voyez, comme ambition, entre nous, c'est bien maladroit.
C'est un ambitieux pas très calculateur.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se rapproche, de la gauche, serait beaucoup dire, du centre-gauche, et c'est à ce moment-là qu'il retourne à la littérature, puisqu'il a signé un contrat mirifique pour ses œuvres, publier ses œuvres complètes, et il va les publier jusqu'en 1831.
On se dit... Il a raté l'occasion avec Louis XVIII, après les 100 jours. Il est quand même devenu ministre, mais renvoyé. Sous Charles X, pareil, on se dit, avec la monarchie de Juillet, les choses vont bien se passer, parce qu'effectivement, c'est à la fois libéral et à la fois monarchiste. Donc on se dit, ça y est.
Absolument.
Et donc, apparemment...
Chateaubriand avait toutes les raisons objectives de se rallier à Louis-Philippe.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'une monarchie de Juillet qui ne demandait... qu'à accueillir Chateaubriand, le dit Chateaubriand,
se dérobe, s'en va en Suisse. Aujourd'hui, pour nous, est sans importance, est presque invisible, mais qui, pour Chateaubriand, a une énorme importance, c'est que Charles X a abdiqué, son neveu Angoulême aussi, mais ils ont abdiqué en faveur du fils du duc de Berry, tué en 1820, fils posthume, et que ce petit garçon a donc 9 ans à ce moment-là, et que Chateaubriand le considère comme un roi légitime. Donc, la position de Chateaubriand en 1830, elle est très claire, car il a été invité au Palais Royal à discuter avec Louis-Philippe, sa femme et sa sœur, qui auraient voulu le rallier, évidemment. Il y avait toutes les raisons, encore une fois. Mais Chateaubriand considère que Louis-Philippe aurait dû devenir une sorte de régent, de lieutenant général du royaume, comme le duc d'Orléans l'avait été pendant la minorité de Louis XV. Et que, à partir du moment où Louis-Philippe a accepté la couronne, il y a eu filoutage. Il y a eu captation et il y a eu donc immoralité. Et sous la monarchie de Juillet, les griefs se sont accentués parce que la politique de Louis-Philippe a été une politique pacifiste, alors que Chateaubriand était un esprit plutôt gaullien. Hein, c'était la dignité de la France, la position de la France en Europe, etc., etc. Et en outre, la politique de Louis-Philippe, comme vous le savez, a viré très visiblement au soutien de la bourgeoisie et du capitalisme financier et du monde des affaires.
Mais là aussi, je plaide contre Chateaubriand, mais là aussi on est dans cette forme de réconciliation de la France avec elle-même, deux Frances. Mirabeau, qui est son exemple, n'était pas un homme qui était à ce point... exempt de toute manigance financière.
C'est vrai, vous avez raison.
Et d'appât du gain, donc Mirabeau a été ravi. Fin...
Chateaubriand considère qu'il y a quand même, si vous voulez, que pour Chateaubriand, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Hein, pour reprendre une phrase du général de Gaulle, qu'il aurait pu contresigner et qu'il a exprimé sous une autre forme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'il était un ancien ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire que c'était ça qui le préoccupait souvent le plus, et qu'il avait l'impression que Louis-Philippe menait une politique timide, une politique inféodée à l'Angleterre, et cela ne lui plaisait pas. Et c'est ainsi qu'il a pu être, pendant 15 ans, enfin en tout cas au moins 10 ans, ce que j'ai appelé le paladin du légitimisme ou de la légitimité, qui était une impasse absolue.
Oui, c'est ça. Mais justement, donc il est avec Louis-Philippe plus royaliste que le roi.
Exactement.
Voilà. Alors qu'il l'était avec Louis XVIII moins royaliste que le roi.
Oui, si on veut. Voilà.
Donc là, avec Louis-Philippe.
Non, il y a un renversement, mais qui n'est pas du tout seulement propre à Chateaubriand. Hein. Il y a eu un croisement dans l'échiquier politique de cette époque, mais qui est allé. Enfin, là, ça serait trop long à expliquer, mais les royalistes, puisque après 1830, on dit les royalistes, on dit plus les ultras ou. Les royalistes étaient persuadés que leur position, c'est une position populiste, si vous voulez, qu'on a retrouvée ailleurs, c'était que la grande aristocratie terrienne devait faire alliance avec le peuple des campagnes, les paysans, et qu'ils avaient la majorité, que la bourgeoisie des villes, la banque, les ouvriers même, étaient minoritaires. Donc leur idée, c'était une espèce de monarchie néo-féodale, appuyée sur la religion, bien sûr, et sur les masses populaires, mais les masses populaires encore, en somme, pas encore éduquées, si j'ose dire.
Donc il meurt en 1848, il rencontre donc quatre souverains, Napoléon, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, et avec les quatre...
Et même Louis XVI.
Louis XVI, enfin, mais Louis XVI.
Parce qu'ils se sont rencontrés.
Voilà, oui, oui, mais je veux dire, il a joué un rôle politique.
C'est ça,
voilà,
oui.
Et donc, avec les quatre pour lesquels il s'est engagé, d'une façon ou d'une autre, il a fini par se brouiller, être en opposition, être l'opposant des quatre. Et donc, les quatre formules de monarchie-impérialisme, enfin, les quatre formules ne lui convenaient pas, ou lui ont convenu un certain temps, et ont fini par ne plus lui convenir.
Voilà. Alors, évidemment, on peut dire que c'est un mauvais coucheur.
Est-ce que vous trouvez ça, vous, cohérent, ces quatre adhésions?
Écoutez, c'est quatre... cohérent dans la mesure où le roi Chateaubriand lui a été fidèle, Henri V. La liberté, il lui a été fidèle jusqu'au bout, en faisant même alliance pratiquement avec les Républicains, hein, sous la monarchie de Juillet. Et la religion, il lui a été fidèle. Ce sont les trois points, il le rappelle à la fin de ses mémoires. Je meurs royaliste convaincu, j'approuve la liberté et je suis un chrétien aussi convaincu. Enfin, donc, ce sont les trois points qui, j'ai pas voulu dire qu'il y avait une espèce de monolithisme dans la pensée politique de Chateaubriand. Au contraire, elle évolue sans cesse et je me suis efforcé dans ce gros livre, c'est la raison de sa grosseur aussi. J'ai voulu épouser les méandres, les sinuosités de ce parcours.
Qu'on suit très
mais
bien.
Mais on arrive à la fin avec quelque chose dans ses rapports avec Carrel ou dans ses rapports avec Lamennais. Hein, je parle des années 30-40. À une, disons, une forme de démocratie chrétienne telle qu'elle sera théorisée au XXe siècle. Visiblement, c'est la position que Chateaubriand exprime dans la conclusion de ses mémoires, qui sont un de ses derniers textes, et où il écrit « Le christianisme est l'avenir du monde ». Et sur ce point, c'est-à-dire sur le point des libertés, sur le point de la monarchie et sur le point de la religion, il n'a jamais transigé.
Donc là, vous rétablissez une forme de continuité, c'est ça, face à des situations qui semblent effectivement très différentes et on s'y perd un peu, et là vous rétablissez le fil continu. Et je voudrais, pour terminer, essayer de mieux comprendre de quelle monarchie il est et ou de quel christianisme il est. Et revenir un peu au début, ce qui permettra peut-être de mieux comprendre l'ensemble. Donc, il dit lui-même, hein, je le cite, hein, qu'il était républicain par nature, monarchiste par raison et bourbonien par honneur. Ma question est la suivante. Il était donc républicain par nature, peut-être avant la Révolution.
Indépendance personnelle.
Voilà,
hein.
Voilà,
c'était une question psychologique plutôt. Là.
Voilà. Avant la Révolution, donc il était plutôt lecteur de Rousseau, agnostique ou croyant. Voilà. Et il devient peut-être chrétien par émotion et catholique par raison. Il se convertit. Et donc il met en avant, dans le génie du christianisme, 1802, le côté esthétique du christianisme. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a dans les deux piliers de la pensée de Chateaubriand, à savoir son catholicisme d'une part et son royalisme d'autre part, beaucoup de raisons qui expliqueraient peut-être qu'effectivement cette raison a été malmenée dans les événements qu'il a traversés?
Oui,
et que
alors
vous
la
avez...
question, évidemment, il nous reste peu de temps pour aborder la question de la religion de Chateaubriand.
Oui.
Qui a été étroitement lié à son attitude politique. Hein. On a parlé de lui, c'est Sainte-Beuve qui a dit « c'est un épicurien à imagination catholique », ce qui est un contresens. Enfin, c'est un peu comme ceux qui disent « c'est un réactionnaire de charme », ça c'est plutôt Paul Morand. Chateaubriand a effectivement commencé par être déiste, jusqu'à 30 ans. Mais il avait eu une enfance très pieuse,
catholique. Mais sa mère voulait plutôt qu'il soit curé.
Il avait reçu tous les sacrements, bon. Et puis, en 1798, après la tourmente révolutionnaire, après la mort de son frère, après la mort de sa mère et de sa sœur chérie, Julie, après avoir traversé les épreuves de son émigration, la faim, il est allé jusqu'au bout de la dépossession de lui-même. Si vous voulez. Il s'est senti complètement traumatisé, ébranlé, et c'est dans ce cadre-là qu'il se convertit, mais qu'il a retrouvé la foi. C'est pas du tout la même chose.
J'ai pleuré et j'ai cru.
Voilà. Et cette foi, c'était la foi de son enfance, c'était la foi chrétienne. Alors, avec une nuance, si vous voulez, qui a été celle de son enfance et celle de son âge mûr, c'est que c'est une foi, c'est une religion qui est de type fénelonien, de type Saint-François de Sales, si vous voulez. C'est une religion humaine qui insiste sur l'idée que l'homme a vocation à rejoindre Dieu. Il n'y a pas, insiste plus là-dessus que sur la transcendance.
Mais il n'est pas mystique pour autant.
Non, absolument
pas. Il a peur même...
Absolument
voilà,
pas.
Il a peur des mystiques.
Alors, pour caractériser Chateaubriand, j'utiliserai les catégories qu'a mis en place un théologien catholique qui s'appelle Urs von Balthasar, qui a intitulé un grand livre « La gloire et la croix ». Eh bien, il faut dire que Chateaubriand est du côté de la gloire. Il n'est pas quelqu'un... Il n'y a pratiquement pas de christologie dans sa foi, dans sa piété. Il y a une piété mariale. Il ne contemple pas le crucifié, c'est pas Pascal. Il n'y a pas le mémorial de Pascal. Mais pour lui, la religion est une institution. Elle est quelque chose qui doit régler la société. C'est pour ça qu'il se rallie à Bonaparte au moment du Concordat. Il pense que c'est viable. Et par la suite, il va continuer de penser que la religion peut non seulement survivre, mais qu'elle doit et qu'elle sauvera la société de la marche à l'abîme. La conclusion des mémoires, c'est ça. C'est pour ça que je parle de démocratie chrétienne. C'est un anachronisme, là encore. Mais ça veut dire que, finalement, la nature du pouvoir, la personne du souverain, lui importait assez peu.
Mais donc, vous voulez dire qu'il a une conception politique de la religion ?
Oui, presque.
Mais surtout politique de la religion, donc raisonnable ?
Je dirais pas surtout, parce qu'il y a une piété aussi, personnelle, oui. Une piété sincère. C'est quelqu'un qui va à la messe, qui a un confesseur, qui signe la veille de sa mort une rétractation de tout ce qui aurait pu choquer les âmes pieuses. Donc, c'est quelqu'un qui veut être, il se veut en accord avec l'Église, mais il insiste davantage sur la gloire que sur la croix, c'est-à-dire l'aspect de manifestation du christianisme plutôt que l'aspect mystique ou l'aspect intérieur. Et vous voyez.
Est-ce que vous diriez qu'il est plus catholique qu'il n'est chrétien ? Est-ce que vous diriez qu'il est plus dans le côté de maîtrise par la religion ?
C'est pas une maîtrise politique, hein. Il est très anticlérical, par exemple.
Ah oui.
Il ne souhaite nullement que l'épiscopat, par exemple, ait des pouvoirs accrus en France.
D'accord.
Il est anticlérical, mais il pense que la religion doit avoir une façade, qu'elle doit être sociale, en somme, qu'elle doit avoir, jouer son rôle dans la société, non pas comme forme de pouvoir, mais comme forme d'équilibre et de moralisation de la vie sociale. Enfin, il en est encore à faire des déclarations du genre « Si vous tuez Dieu, comment vous pourrez expliquer aux pauvres qu'il ne doit pas tuer le riche ?»
Mais donc, le côté, parce que effectivement, enfin, la morale chrétienne qu'il défend est une morale sociale. Donc, parce que, comme nous le savons, enfin, vous en parlez, donc, c'est un autre, on pourrait faire 50 émissions sur Chateaubriand, mais en particulier sur le côté Chateaubriand amoureux. Mais je veux dire, la fidélité conjugale n'est pas pour lui quelque chose qu'il a particulièrement respecté. Donc ce qu'il défend dans la morale chrétienne, ce n'est pas ça.
Écoutez, ce qu'il défend dans la morale chrétienne, c'est surtout les deux vertus théologales que sont l'espérance et la charité. Espérance qu'il maintient sur le terrain politique, envers et contre tout. Charité qu'il exerce et qu'il pratique.
Mais charité qu'il exerce et qu'il pratique, et vous le dites en particulier quand il soutient effectivement son épouse délaissée dans toutes les bonnes œuvres qu'elle fait, et donc dans le voilà. Mais aussi pour se racheter ou pour se donner des armes,
sans doute,
pour plaider. Mais c'est ce qu'il dit lui-même.
Vous conviendrez que il vaut mieux tromper sa femme et faire des largesses aux pauvres que
le
contraire, qu'être un mari fidèle. Et un avare.
Sauf qu'il négocie, on a l'impression qu'il a un côté
négociation
avec Dieu par avance, en disant, voilà, j'ai beaucoup péché par ailleurs, mais j'étais très charitable aussi.
Il n'en a jamais parlé, de ses charités.
Il y a une page ou deux, effectivement, dans votre livre, où vous dites qu'effectivement, il a beaucoup financé, beaucoup subventionné les bonnes œuvres de
son épouse. Non, mais c'était
une
charité individuelle aussi. Voilà. Il donnait, et il venait au secours des gens en difficulté. Toutes les situations de la vie, des veuves qui ne pouvaient pas joindre les deux bouts, des vétérans, etc.
Donc nous n'avons, pendant cette émission, qu'abordé une toute petite partie à la fois de votre livre et à la fois de la vie de Chateaubriand. Et donc, sauf si vous avez un dernier mot à ajouter sur ce...
Écoutez, je dirais simplement que c'est quelqu'un, et c'est justement la source de nos interrogations, qui ne sait pas où se mettre, qui traverse une fracture historique et qui affronte cette fracture comme il peut. Il arrive trop tard parce qu'il sait que l'ancien régime ne reviendra plus, que son enfance est passée, et il arrive trop tôt parce qu'il sait que la République, c'est pour plus tard. Donc, c'est peut-être en cela, je ne sais pas s'il faut conclure ainsi, mais c'est peut-être en cela qu'il est proche de nous. C'est-à-dire qu'il affronte, dans l'histoire, une redoutable déstabilisation identitaire dans la société française. Déstabilisation identitaire que nous sommes en train d'affronter dans la mondialisation, dans l'association des nouvelles techniques de communication. Si bien que nous ne savons plus non plus où nous mettre. S'il y a quelque chose qui nous parle en Chateaubriand sur le plan politique, c'est bien cela.
Oui. Mais est-ce que vous souscririez donc à ce propos quand il est dans son ambassade à Berlin, il rencontre Chamisseau et qui dit de lui « Chateaubriand est maladroit, il ne cherche ni ne trouve son emploi nulle part, il ne sait ni où il est, ni qui il est ».
Je crois qu'il savait bien qui il était. Et il savait bien où il était. Là, cet entretien avec Chamisso, c'est...
Parce que vous parliez de troubles identitaires.
Oui, voilà, oui, oui, voilà. C'est vrai. Non, mais, et j'ai dit, il ne sait pas où se mettre. Je pensais à cette lettre de Chamisso à sa sœur, disant, parce que Chateaubriand est allé lui rendre visite en grande cérémonie comme ambassadeur. Enfin, Chamisso était une espèce de baba cool qui avait voyagé, qui avait des cheveux longs, qui s'intéressait qu'aux plantes et il travaillait pour le Jardin des Plantes de Berlin. Mmh. Et quand il a vu débarquer Chateaubriand, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire, celui-là? Enfin, et en plus, Chateaubriand passait pour un homme d'extrême droite à ce moment-là. Alors, il faut peut-être pas...
Relativiser ce propos.
Relativiser ce propos, mais on peut en partir pour se poser des questions.
Eh bien, écoutez, Jean-Claude Berchet, merci beaucoup donc, d'être venu nous voir. Merci beaucoup pour cet énorme et tout à fait passionnant, parce qu'il se lit admirablement bien, travail que vous venez de faire, donc qui s'appelle Chateaubriand. Jean-Claude Berchet, donc, qui vient de paraître chez Gallimard. Il faut s'armer de patience, mais il suffit de traverser tout cela avec beaucoup d'intérêt et, comme je vous l'ai déjà dit, mais avec beaucoup de passion, parce que c'est extrêmement bien écrit et on suit tout cela avec beaucoup d'intérêt. Donc je renvoie nos auditeurs à votre biographie, à votre édition critique donc des Mémoires d'Outre-Tombe, et puis en essayant, en espérant que tout le monde pourra trouver son Chateaubriand ou le Chateaubriand qui l'intéresse ou la partie de Chateaubriand qui correspond à qui il est pour être mieux armé, dites-vous, dans les troubles identitaires qui sont effectivement les nôtres. Voilà, merci beaucoup.
Espérons, merci beaucoup.
C'est moi.